Alors, je vais commencer, j'allais dire, à la manière de Pivot. Non, parce que j'aime pas trop le bonhomme, mais l'idée de la di... On a le droit de pas aimer, non? Oh! Bien, vous voyez bien, il y a des gens qui m'aiment pas. Moi, j'ai le droit de pas aimer Pivot. Bon, hein, certains savent très bien que j'ai une adoration toute particulière pour Voltaire comme tête de Turc. Chacun son droit. Bien, mais je peux le justifier, parce que j'en ai trop lu. Alors, on va commencer simplement, j'irai un peu à la manière de Pivot, mais avec une dictée. Donc, je ne vous demanderai pas, évidemment, de prendre vos stylos, tout ça. Je le fais suffisamment avec mes élèves. Et alors, à corriger celle-là, ça sera un carnage. Pour parler sans ambiguïté, ce dîner à Sainte-Adresse, près du Havre, malgré les effluves embaumées de la mer, malgré les vins de très bon cru, les cuissots de veau et les cuissots de chevreuil prodigués par l'amphitryon, fut un vrai guépier. Quelque exigu qu'ait pu paraître, à côté de la somme due, les arrhes qu'étaient censés avoir donné la douairière et le marguillier, il était infâme d'en vouloir pour cela à ses fusiliers jumeaux et mal bâtis et de leur infliger une raclée, alors qu'ils ne songeaient qu'à rendre des rafraîchissements avec leurs coreligionnaires. Quoi qu'il en soit, c'est bien à tort que la douairière, par un contresens exorbitant, s'est laissée entraîner à prendre un râteau et qu'elle s'est crue obligée de frapper l'exigeant marguillier sur son omoplate vieillie. Deux alvéoles furent brisées, une dysenterie se déclara, suivie d'une phtisie. Par Saint-Martin, quelle hémorragie! S'écria ce bélitre. À cet événement, saisissant son goupillon, ridicule excédent de bagages, il la poursuivit dans l'église tout entière. Voilà. Or, on connaît tous ce texte, hein, la fameuse dictée de Mérimée. Aïe, aïe. Bien, alors, il est clair que l'impératrice, espagnole d'origine quand même, hein, arrivait à faire 62 fautes. La princesse de Metternich, 42 fautes. Et pourtant, les Autrichiens et la France, hein, c'est vrai qu'on a été quand même longtemps adversaires. Dumas-fils, 24 fautes. Octave Feuillet, 19. Ah, on sait très bien que Richard de Metternich aurait commis seulement 3 fautes. Hein? Et notre brave benêt de service, hein, notre analphabète national, hein, qui parlait plusieurs langues, eh bien, problème. Et c'est tout le problème de ce que l'on est en train de faire depuis pour la troisième séance et qu'on va faire encore une séance. C'est qu'on ne sait pas combien on en a fait. Ben non, parce que tous ces chiffres, ils sont donnés après, a posteriori. Alors, ce que l'on a, si on croit les souvenirs de la princesse de Metternich, elle était là, elle a fait 42 fautes. Hein? Elle indique que le souverain n'en aurait fait que 45. Mais par exemple, Maurice Allem, historien qui a bien travaillé sur l'époque, nous dit Napoléon III a 75 fautes. 45, 75, soit il y a une coquille, soit il y a un petit écart. Hein? Ça, c'est un document historique. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est bien tout le problème de notre réflexion. Parce qu'on se dit, bon, voilà, la dictée de Mérimée, c'est classique, tout le monde, c'est classique. Ben oui, c'est un classique maintenant. Tout le monde est d'accord. Hein? Ben bien sûr, sans aucun problème. Bon, ben écoutez, on va demander au souvenir des différents protagonistes ce qu'il en est. Octave Feuillet, il y était. Il y était. Hein? Alors. Ah oui, un problème, c'est. La dictée est censée s'être passée pour les uns à Compiègne, pour les autres à Fontainebleau. Ça fait comme le 45-75, ça. Il y a un problème de comptabilité, hein. On a dû se tromper. Pour les uns, c'est en 1868 et pour les autres, c'est en 1865. Bon, on va demander à Octave Feuillet. Octave Feuillet, on a une lettre de lui adressée de Fontainebleau à sa femme en juin 1868. Ah, donc pour une fois, on a une date, on a un lieu. Alors, pour lui, l'auteur de cette dictée était le préfet du palais. Oh merde, c'est pas Mérimée. J'avais Fontainebleau, j'avais la date et c'est pas Mérimée. La dictée de Mérimée, elle n'est pas de Mérimée. Oh ben zut alors. On a joué à la dictée. C'était monsieur de Montbrun qui dictait des mots impossibles. Chacun écrivait en se torturant l'esprit. L'empereur a fait 11 fautes, Et 11, c'est pas en chiffres, c'est en toutes lettres, donc on peut pas dire 77, hein, c'est bien 11 fautes. ONZE, c'est moi, ça fait 11. Hein. Donc là, on a plus 75 et 45. Non. Moi, je ne sais pas combien j'ai pu en faire, c'est Madame de Sancy qui a remporté la victoire. Madame de Sancy, d'où elle sort, celle-là? Tout le monde nous dit que c'est Richard de Metternich, enfin. Ah bon? Non, mais attendez. Si c'est Metternich qui a gagné, ça peut pas être à Fontainebleau, ça peut être qu'à Compiègne. Elle n'a jamais mis les pieds à Fontainebleau. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui a dicté. Ah! Albert de Mogny, qui était dans les proches, nous dit, dans ses souvenirs du Second Empire, mais attention, hein, j'adore les souvenirs du Second Empire, il a écrit les souvenirs du Second Empire en 1889. Certains devaient plus être tout à fait frais. Bien. Un soir où l'on était à bout de ressources et d'inventions, quelqu'un, proposa une dictée dans laquelle on, j'aime bien la réponse au sujet du on par Prévert, elle définit parfaitement ce qu'est le on dans la langue française. Un jeune journaliste lui demandait « Mais on dit que dans vos œuvres, vous avez des inspirations un peu communistes. » Il a regardé, il a fait « On qui ?»« On, c'est un con. » On avait eu soin de réunir en quelques lignes toutes les difficultés, toute l'école de la grammaire française, et le bizarre, l'incroyable, miraculeux, et que ce fut le prince de Metternich qui fit le moins de fautes. Ah, ça y est, j'ai retrouvé mon prince de Metternich. Ah bon? Et la dictée, elle est bien de Mérimée. C'est ce que nous dit Pauline de Metternich dans ses souvenirs. Ah bon? Donc Ostaf Feuillet, quand il a écrit une lettre à Fontainebleau, il s'est trompé. Ah! Ah oui, mais alors Pauline de Metternich nous indique dans ses souvenirs que c'est pas Mérimée qui a fait la dictée. Hein? Ça provenait de l'Académie française, d'un membre de l'Académie française. Et cette fois-ci, c'est plus à Compiègne, c'est bien à Fontainebleau. Donc on ne peut plus avoir... Allez écrire l'histoire avec ça, vous. Et pas aidé, hein? Hop, et qu'est-ce qu'on a là? Alors on nous dit, hop. Un soir, M. Prosper Mérimée proposa de nous faire la fameuse dictée de l'Académie. Ah bon, donc c'est la dictée qui est faite par Mérimée, mais c'est pas lui qui l'a écrite. Ah, c'est peut-être ça le truc. Qui se complaît dans des difficultés de participe vraiment torturantes. Tu m'étonnes. Il y a toutes les anomalies quasiment qu'on peut trouver dans le Grévis. Voilà. Et Alexandre Dumas fils, hein, a demandé au prince de Metternich, « Prince, quand allez-vous vous présenter à l'Académie pour nous apprendre l'orthographe ?» Ah, bon, un bon mot, ça fait toujours bien dans un livre d'histoire. Ah oui, mais le problème, c'est que à l'époque, il n'est pas encore à l'Académie, Alexandre Dumas fils. Ça ne marche pas avec les dates. Maurice Donnet, il évoque la cour en Compiègne. C'est dans un Historia de novembre 1848. Et il dit des fautes. Nous sommes douloureusement surpris que l'empereur des Français en ait fait 45 et que deux académiciens, Octave Feuillet et Alexandre Dumas, en aient pu commettre l'un 19, l'autre 24. Et donc Charles Samaran, qui a beaucoup parlé des dictées avant que Bernard Pivot ne s'amuse, a demandé à des gens de lui faire des dictées. Ce dernier trait est évidemment controuvé puisque Alexandre Dumas ne fut de l'Académie qu'en 1874. Et là, c'est dur de faire une dictée avec Napoléon III. Ou alors, c'est une dictée à la manière de Victor Hugo. On fait tourner les tables. Ah bah oui, hein. Ah, alors, ça s'est passé peut-être en 1865, peut-être en 1868. C'était à Compiègne ou à Fontainebleau. La dictée a été faite peut-être par Mérimée, peut-être par Montbrun, peut-être par quelqu'un d'autre. Elle a peut-être été rédigée par Mérimée, peut-être par Montbrun, peut-être par un membre de l'Académie. Et l'empereur a peut-être fait 11, 45 ou 75 fautes. Il assiste en tant qu'académicien non encore élu, Alexandre Dumas fils. L'édité de Mérimée. Voilà une pièce qui est vraiment plaçable en plein milieu de la grande doxa sur le Second Empire. Hein ? Si on voulait faire passer le pauvre Napoléon III pour un grand Benet, rien n'était mieux que de dire « Metternich fait trois fautes » et « Standouille de Napoléon III, qu'est-ce qu'il fait ? 75 fautes. » Et voilà, emballé, c'est pesé. Ouais, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé, puis peut-être que ça s'est jamais passé. Ou peut-être que ça s'est passé, mais pas avec ce texte-là. En tout cas, Mérimée, là-dedans, semble y tromper, mais alors de très loin. Voilà. Eh bien, le problème, hein, là, que vous voyez, c'est évoqué en trois pages. Eh bien, si un jour vous voulez vous amuser à voir le problème que vont rencontrer les historiens, alors je sais que là, je risque peut-être de me fâcher avec mon collègue historien, parce que j'ai regardé les textes jusqu'à présent, tout marchait, mais alors ce coup-là, on ne va pas être d'accord du tout. Voilà, c'est l'un des livres, parce que moi je vais citer mes sources, hein, l'un des livres capitaux si vous voulez vraiment comprendre Napoléon III, et alors surtout si vous adorez l'histoire et que vous voulez savoir comment on écrit l'histoire, voilà un livre à recommander à tout le monde. Hein. Ce monsieur, Robert Christophe, a écrit un premier livre sur Napoléon qui s'appelait Napoléon controversé. Il fait partie de ceux qui ont démoli toutes les légendes, tous les lieux communs, tous les préjugés que l'on pouvait avoir sur Napoléon III. Et puis après, il s'est dit, mais ça ne suffit pas. Et il a mis ça au tribunal de l'histoire. C'est-à-dire qu'il a dit, et c'est un petit peu la démarche que j'ai avec vous tout au long de ces séances, de dire, mais alors, regardons comment s'est construite une image. Parce que vous avez l'histoire. La première heure, je vous ai donné des faits. Les faits, bien. Après, l'histoire, c'est l'analyse des faits. Et là, l'histoire, elle n'est plus objective du tout. Alors, pour Napoléon Ier, elle est intégralement subjective. Hein, cette dictée de Mérimée, si je vous avais demandé, alors, la dictée de Mérimée, vous avez entendu parler, sans aucun problème, je vous aurais demandé le nombre de fautes qu'avait pu commettre ou qui avait gagné, c'est plus ou moins un lieu commun de savoir que Metternich l'a emporté sur Napoléon III, que Napoléon III a fait une tonne de fautes, il en a même fait plus que sa femme qui était espagnole. On oublie juste de dire une chose, c'est que son éducation, il l'a subie en Suisse alémanique, qu'il a appris l'allemand, l'italien, l'espagnol, il connaissait évidemment cet analphabet de Napoléon III, le grec et le latin. Ah, peut-être que la dictée de Mérimée, c'est peut-être un faux. Oh, c'est peut-être une info qui n'est pas bonne. Bien, tout au long de ce livre, il évoque systématiquement le point de vue des différents historiens et témoins, étape après étape, épisode après épisode. Alors, le livre n'est plus disponible aujourd'hui, mais on arrive à le trouver sur Internet assez régulièrement en occasion, ou peut-être en bibliothèque, vous arrivez à le trouver. Lui, ce qu'il dit, c'est tout simplement que dans certains cas, on arrive à faire la part du vrai et du faux, la part de l'intoxication totale, et parfois, la part de la vérité qu'on n'a pas voulu dire. Et parfois, quand certaines personnes ne disent pas la vérité et qu'on voit le rôle politique qu'ils ont pu obtenir, qu'ils pouvaient avoir pendant le Second Empire et après le Second Empire, aïe, 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 d'un seul coup, on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui ont intérêt, en quelque sorte, à se faire oublier et d'autres à se faire valoir comme opposants au régime. Alors que la plupart du temps, bon, ils ont soutenu le régime. Hein. Voilà, donc je vous le laisse évidemment à la fin si vous voulez en prendre les références, mais un véritable régal et surtout une démarche vis-à-vis de l'histoire. Attention, je ne condamne pas mes collègues historiens parce que dans l'histoire littéraire, je crois qu'on arrive à faire pire qu'eux. Sans aucun problème, il n'est qu'à voir certaines biographies américaines sur certains des auteurs français dans lesquels on a l'impression que plus le bruit est un ragot de chiottes et plus c'est un rapport de concierge, mieux c'est pour étoffer votre volume. Hein, y a quelques biographies américaines qui sont délicieuses à ce sujet. Alors, pourquoi j'ai appelé ça sous le signe du prince impérial ? Parce qu'il y a un grand oublié dans toute cette histoire-là. Parce que, honnêtement, Napoléon Ier, vous connaissez ? Si je dis derrière duc de Reichstadt, avez-vous dit ? Oh, bah tout le monde va voir, oui, l'aiglon. Napoléon II, mais Napoléon IV. Peut-être même que vous n'avez jamais entendu parler de Napoléon IV. Parce qu'il a été appelé Napoléon IV. Eh oui, il est né sous l'Empire, l'Empire s'effondre, il a 14 ans, et il va mourir en 1879, après avoir servi dans les troupes anglaises, dans l'artillerie, de façon héroïque. Ah, il a une mort tout à fait héroïque, à tel point que les Anglais vont, la reine Victoria va lui dresser un monument funéraire à l'intérieur de Westminster, le tombeau des célébrités anglaises, excusez du peu, et que les Zoulous rendront son corps. Elle n'a pas reculé, on a des traces d'éperons qui restent derrière son corps, à l'endroit où il a été tué, exécuté, par une cinquantaine de coups qui ont traversé son corps. Il a une mort tout à fait héroïque, tout à fait belle, mais qu'est-ce qui s'est passé jusqu'en 1879 C'est vrai que en 70, il a 14 ans, il accompagne son père pendant la guerre. Son père, lorsqu'il va sur Sedan, le laisse en arrière. Il devra fuir par la Belgique et puis se retrouver en Angleterre où il retrouvera son père. Et qu'est-ce qu'il a eu, ce jeune homme ? Alors, pour avoir une biographie de cet homme, il nous a fallu attendre un Suisse, Jean-Claude Lachnit, qui a fait cette biographie à la fin des années 70, dans le cadre du souvenir napoléonien. C'est bon quand même de bien connaître une époque et de savoir que cet homme qui était appelé à devenir Napoléon IV, que l'on a appelé Napoléon IV puisque en 73, quand son père meurt, ben, il devient automatiquement Napoléon IV. Donc s'il y a un nouveau Napoléon, ben, il deviendra Napoléon V d'office puisqu'il y a eu un Napoléon IV. Comme Napoléon III est devenu Napoléon III parce qu'il y a eu un Napoléon II. Que les Autrichiens soient d'accord ou pas, d'ailleurs, on s'en fiche complètement. C'est un problème français, c'est pas un problème autrichien. Ben, Napoléon IV, on n'en parle pas. Pourquoi ? Qu'est-ce qui nous dérange dans cette histoire ? Début de la Troisième République. Le président, comme les groupes qui sont à l'intérieur, hein, les Gambetta, les Grévy, déjà les Jules sont en train de sévir, le vieil Émile Ollivier, hein, l'espèce d'opposant centriste, hein, une sorte d'extrême centre, si ça pouvait exister. Émile Ollivier n'est pas d'accord avec les Jules, il n'est pas d'accord non plus avec Monsieur Thiers. Alors, comme ils s'entendent avec personne, ils se disent, tiens, on va choisir un abruti comme président. Et donc, ils ont choisi MacMahon. Donc, MacMahon a pris la présidence et le brave Patrick de MacMahon a eu juste un objectif, c'est de se dire, bon, ben moi, je suis là juste en intérim, je vais essayer de rétablir la royauté parce que MacMahon, il était monarchiste. Il était royaliste. Donc, il a dit, mais il n'y a pas un Bourbon qu'on veut ? Il n'y a pas des Charles Quinquistes, comme ça qu'on les appelait. Hein. Ah ben oui, mais il n'a pas voulu. Il voulait le drapeau blanc et il voulait avoir tout le contrôle. Pas de régime avec des chambres. Bon, ben exit le comte de Chambord. Bon, alors on essaye avec un Orléans. Bon, ça ne nous a jamais beaucoup réussi, il faut être honnête. Hein. Chaque fois qu'on a un Orléans, c'est pas la bonne branche de la famille. On s'est dit, tiens, on va essayer, hein, le prince de Joinville. Ah, oh, ben, il va mourir. Bon, ça ne nous arrange pas du tout. Bon, ben, il reste Napoléon IV. Et Napoléon IV, ben, il part dans la campagne contre les Zoulous et il meurt en 79. Donc, ça évacue tous les candidats possibles pour un rétablissement. Ouf, ils ont eu chaud, les Républicains, hein, parce que sinon, c'était cuit. Hein. La Troisième République, elle capotait aussi vite qu'elle mourait. Et ce n'est pas comme ça des idées au hasard. Hein je crois que c'est en 77 ou 78, il y a 104 députés. En 77, il y a 107 députés. 107 députés bonapartistes à l'Assemblée nationale qui reconnaissent Napoléon IV comme leur chef. Oui, oui. Il n'a pas le droit d'être en France. Hein, il est obligatoirement en Angleterre, puisque hop, on lui a recollé une loi de bannissement. C'est à la mode. Mais 107 députés. Les Zoulous nous l'auraient laissé en vie. Et il n'est pas dit qu'on n'aurait pas eu un troisième empire. Et quand je parle d'un troisième empire, je ne parle pas par hasard. Alors, qu'est-ce qu'il a eu comme éducation ? Quelle est l'importance de cet homme que l'on a baptisé avant qu'il ne devienne Napoléon IV, le comte de Pierrefonds ? Ah oui, hein, fallait qu'il ait un nom. Duc de Reichstadt, vous connaissez ? Comte de Pierrefonds ? Bah non. Hein. C'est vrai qu'on connaît mieux les titres étrangers que les titres français, peut-être. Bien, donc on lui a mis une nurse anglaise, qui lui a été recommandé tout particulièrement par... Bon, c'est simple, en Angleterre, de toute façon, hein, quand c'est recommandé par la reine d'Angleterre, vous dites Victoria, vous répondez presque tout le temps correctement, tellement elle a duré longtemps. Et puis, on a mis un ancien cuirassier à sa porte, un valet de pied, qui était un ancien cuirassier de Napoléon. Hein, c'est nous, les obscurs, les sans-grades. Ah ben, Rostand s'en inspira. Hein. Mais il mettra ça pour l'Aiglon. Alors qu'il était hors de question, vous imaginez. Un ancien de la garde impériale qui fait le guet devant la porte du duc de Reichstadt. À Vienne. Non mais l'empereur, il aurait eu une attaque. Hors de question d'avoir un Français en uniforme français qui fait le paix devant la porte, surtout qu'on disait c'était le duc de Reichstadt. C'est le duc de Reichstadt. Oui mais c'est qui mon papa? Tu es le duc de Reichstadt. Pas facile, hein. Bien. Donc en réalité, on nous parle de Napoléon IV. Hein. Il a un précepteur, un premier précepteur, hein, un précepteur qui s'appelle Francis Monnier. Et au bout de plusieurs années, on s'aperçoit que non, ça ne va pas. Ça ne va pas parce qu'il est très gentil, tout se passe bien avec le prince impérial, sauf qu'il ne fait rien avec lui, il prend un retard considérable. On s'aperçoit qu'il écrit en effet véritablement comme un cochon. Donc si quelqu'un avait fait 75 fautes à la dictée, c'est peut-être Napoléon IV. C'est peut-être ça le truc en réalité. La dictée de Mérimée, c'est une dictée pour le prince impérial. Elle doit être ça. Enfin bon. D'ailleurs, c'est au prince impérial qu'un certain Arthur Rimbaud enverra une très belle rédaction en latin. En vers latin. Si, si. Il va se faire engueuler par son professeur parce qu'il a envoyé sa copie, il y avait 3 fautes dedans. Ah ben, 3 fautes, il n'avait pas la moyenne au brevet à l'époque. Au certificat d'études. Bien. Et donc, bon, on se dispense de cette personne et puis on choisit un général, le général Frossard. Oula, pas un rigolo celui-là. Mais général Frossard, il dit, bon, bah, moi je vais m'occuper de ce qui est la vie unitaire, mais par contre, il me faut un civil. Donc il va prendre un universitaire, Auguste Fillon. Fillon, hein, pas Fillon. Hein. Et en 67, on considère que le retard est complètement rattrapé, qu'on a mis les bouchées doubles, mais voilà, il est à peu près dans le cadre normal des élèves qui suivent le lycée impérial de l'époque. Quand on regarde les programmes à l'époque, ce n'est pas nos programmes. Hein. D'ailleurs, je ne sais même pas si certains professeurs seraient capables de comprendre le programme de l'époque. C'est vous dire. Et donc, il y a un précepteur adjoint. Ce précepteur adjoint, vous le connaissez tous. De nom, on en a déjà parlé. Il s'appelle Ernest Lavisse. C'est lui qui réécrira l'histoire du Second Empire. Quand je vous dis qu'il y avait de fortes raisons pour certains personnages de réécrire l'histoire ou de s'amender, de se racheter une conduite républicaine. Hein ? Il n'y a pas eu qu'à la Libération qu'on s'amuse à ce jeu-là. Bien, donc en 70, bah, il va suivre son père, il a 14 ans. Sa mère en est désolée, mais le père dit bah, « je suis désolé, c'est le prince impérial, il doit suivre son père, moi je suis à la tête des troupes et il doit être à mes côtés ». Mais son père le met de côté, il part en Belgique et là, bah, comme il a toujours suivi une formation militaire, et avec un de ses camarades, il entre à Woolwich, la grande école d'artillerie anglaise, et il va sortir 7e de sa promotion, premier en équitation, premier en escrime. Et premier en équitation en escrime, incontesté, incontestable de la part de tous ses camarades anglais. Les Anglais sont fair-play, mais vous savez qu'ils n'aiment pas perdre quand même. Hein. Et à l'époque, eh bien, il se trouve à la tête, à la mort de son père, en 73, non pas des bonapartistes, parce qu'on ne les appelle pas les bonapartistes à l'époque, c'est un peu plus tard qu'on va les appeler les bonapartistes, mais les impérialistes. L'idée, c'est tout simplement de rétablir l'Empire, ni plus, ni moins. Je suis en exil, très bien. Je suis une formation militaire chez les Anglais, très bien. Comme ça, le jour où j'aurai à me battre, j'aurai une formation militaire. Ah, ah! Curieux, le petit bonhomme, quand même. Et donc, ce petit bonhomme, il établit pour les impérialistes un programme politique. Un programme politique qui doit servir de base à la constitution d'un troisième empire. Texto, hein. Ouf. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut que le service militaire soit universel. Il a constaté que le système avec les remplacements, on pouvait racheter évidemment auprès de quelqu'un le système de conscription, il n'est pas d'accord du tout, il veut un service militaire universel, sans possibilité de remplacement ou de rachat. Il veut établir une aristocratie du mérite, c'est-à-dire donner un petit peu sur le modèle anglais ce que son père avait essayé de commencer à faire, mais c'est pas ça. C'est pas autant il a pu réussir un certain nombre de choses, autant dans ce domaine-là, ça n'a pas été très probant. Il veut diviser la France en 18 régions. Et oui, le régionalisme, il veut déjà établir la France en 18 régions. Chaque région possédera sa propre chambre régionale. On est en 1877. Hein. Ils vont vite, les Bonaparte, quand même. Hein. C'est fou. Et ensuite, bien, il veut que la Chambre des pairs soit rétablie. Et que cette Chambre des pairs soit en concurrence, non avec une Assemblée nationale. Bon, là, il y a eu quand même un ramassis de crapules, de traîtres, de faux derches à son père. Donc, il s'est dit, non, ça, c'est un mauvais plan. Donc, les chambres, la Chambre des pairs rentrera en concurrence avec les chambres régionales. C'est-à-dire que le pouvoir ne sera plus franco-parisien ou parisiano-français, mais il sera franco-français. C'est-à-dire qu'il a parfaitement compris l'un des messages de son père, parce que alors qu'est-ce qu'il a pu accompagner son père en province? Ah oui, juste au passage, nos présidents depuis quelque temps ont l'habitude d'aller beaucoup à l'étranger. Mais ils vont très peu dans les provinces. Hein. Il faut dire que quand les premiers ministres vont en province, maintenant, ils reçoivent le coup de feu comme un vulgaire roi de Yougoslavie. C'est pas possible, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Napoléon III, lui, il a tellement confiance dans son peuple qu'il est tout le temps en train d'aller dans une province ou dans une autre. C'est l'homme politique qui a dirigé le pays, qui a été le plus souvent en province. Il n'y a quasiment pas une seule province qui n'a pas vu au moins une fois son passage. Hein, et on sent bien que c'est là qu'il a noué un véritable lien avec le peuple. Parce qu'il est à l'écoute de son peuple. Alors c'est fatigant, mais le petit bonhomme, il est là. Et parfois, il est là où? Sur la selle devant papa. Et donc, il a vu que la ville, c'était pas terrible. Mais les campagnes, elles étaient bonnes, fidèles, loyales. Quand elles votaient pour, elles avaient un petit peu têtues, mais ça marchait. Et donc, il veut établir cette constitution d'un troisième empire. Troisième empire qui poursuit toutes les lignes générales, sociales. L'autorisation des syndicats, non plus officieuses, mais officielles. Les politiques sur tout le système hospitalier. Les politiques éducatives, les politiques sur l'hygiène. Tout dans la poursuite de ce qu'a fait son père. Donc, la grosse modification, c'est plutôt que d'avoir un Conseil d'État qui est en butte contre les deux assemblées, eh bien, il supprimait les deux assemblées, il n'en maintenait qu'une, en concurrence avec les chambres régionales. Un gamin, mais si les Zoulous, 1877, donc 107 députés, qui le reconnaissent, lui en plus, comme chef, on n'est pas loin d'un coup d'État. Et lui est prêt à faire le coup de feu et à débarquer à Boulogne, comme a fait son père lui-même. Ou débarquer à Strasbourg, comme a fait son père lui-même. Parce que son père, il n'est pas arrivé comme ça, hein, lâché par le Saint-Esprit, en plein milieu de Paris, en 1849, enfin fin 1848, début 1849. Non, c'est tout un apprentissage, tout un travail. Pourquoi on ne parle pas de ce prince impérial? Pourquoi? Alors que lui a joué un rôle dans la vie politique française. Et il laisse un testament quand il part avec... ses compagnons ne veulent pas qu'il l'accompagne en Afrique du Sud, et le gouvernement anglais n'est pas trop chaud non plus pour le laisser partir en Afrique du Sud. Et lui dit, je suis désolé, mais je fais partie d'un régiment, je dois suivre mon régiment, je suis les troupes. J'obéis aux ordres. Donc quelqu'un qui veut aller à la guerre, on ne peut pas refuser. Quoi. On peut essayer de lui dire, non, mais si tu ne veux pas y aller, on peut t'aider à ne pas y aller. Mais s'il veut y aller, on ne peut pas lui refuser. Et donc, il a laissé derrière lui une clause, c'est simple, il faut laisser la main, hein, s'il lui arrivait quelque chose, à Victor Bonaparte. Alors, je dirais que c'est une double erreur. La première erreur, c'est que le prince Bonaparte va avoir, avec le journaliste noir, un petit accident qui va nuire considérablement à la cause des impérialistes. Et là, on reparlera de nouveau de Bonaparte. Et puis, surtout, à l'intérieur des bonapartistes, il y avait toute une série de bonapartistes, je dirais plus légitimistes, qui estimait que Ben non, c'est pas lui qu'il fallait laisser le pouvoir, c'est à son père, hein, Plomplon. Eh, mais Plomplon, c'est quasiment un homme de gauche. Déjà, je vous ai dit que Napoléon III était plutôt, on dirait, un radical socialiste, hein, un saint-simonien. Il serait à peu près dans cette, on va dire, les centre-gauche. Alors, Plomplon, lui, il serait plutôt, je dirais, entre le chevêtementisme et des mouvements plus extrémistes. Ah oui, carrément. Donc, Plomplon, il est pépère, mais non, on ne peut pas mettre un prince rouge à la tête. Et donc, y en a certains, ils disent oui, mais c'est quand même le prince. Et donc, à l'intérieur du parti bonapartiste, les mouvements, les courants vont éclater. Et donc, le parti bonapartiste va complètement éclater et ne va survivre que dans un seul endroit, c'est en Corse, puisqu'il y a encore un parti bonapartiste aujourd'hui en Corse, celui-là même. Bah oui, c'est la survivance. Puisque pour la Corse, le prince Napoléon Bonaparte se conservait le droit pour la Corse de choisir. Parce que quand il a fait une visite en Corse avec sa mère, on a voulu empêcher les gens de rentrer dans la maison avec lui. Et il a écarté un des officiers qui était là et dit « c'est la maison de tous les Corses ». Autant dire que en Corse, il a eu un gros bonus. Hein, je ne sais pas pourquoi, mais il a eu un gros bonus. Bien. Avec ces deux exemples-là, ce que je voudrais voir, c'est-à-dire l'exemple du prince Napoléon, l'exemple de la dictée de Mérimée, c'est voir quel est le gros problème que nous avons avec Napoléon III, c'est qu'en réalité, nous ne connaissons pas Napoléon III. Nous marchons avec des préjugés, avec des lieux communs, avec des idées reçues, et même si Flaubert a fait le dictionnaire des idées reçues, il a oublié toutes celles qui concernent Napoléon III. On s'empresse de répéter les mêmes bêtises qui ont été sorties par les historiens de la Troisième République, historiens qui, soit avec, comme Ernest Lavis, des choses plus ou moins à racheter, soit d'autres, des postes à conquérir. Comme la Troisième République a eu beaucoup de mal à s'installer, eh bien, à cause en partie, d'ailleurs, de ce Napoléon IV, eh bien, la République a beaucoup aimé, la Troisième République a beaucoup aimé tous ceux qui ont noirci le tableau derrière et qui ont dit « Oh, combien c'était pas beau avant » et « Oh, combien c'est merveilleux aujourd'hui hein ». Toutes les écoles, tous les bâtiments d'école, et 100 000 écoles, c'est programmé par Napoléon III, par son ministre, à partir de 65. Eh bien, les bâtiments, ils ne seront pas tous construits en 70. Hein. La seule différence, c'est que lorsqu'on construit un tunnel, on arrive à construire presque 80 mètres en un mois, et il faudra presque 20 ans pour arriver à faire les 200 mètres qui suivent. À ça, la République est moins efficace. Et puis, la Troisième République, si on regarde un petit peu la technique de Napoléon III. Napoléon III, il arrive avec un coup d'État et il repart avec une abdication. Pas terrible comme tableau, hein. Vous croyez que c'est mieux pour la Troisième République? Elle naît dans une situation de crise. Le souverain a abdiqué, elle ne reconnaît pas son héritier, puisque logiquement, on aurait dû avoir Napoléon IV qui prenne automatiquement la place, elle négocie avec les Allemands et c'est elle qui propose aux Allemands de leur céder l'Alsace et la Moselle. Bismarck y prend, les Allemands y prennent. Hein. Eux, ils pensaient récupérer que l'Alsace. Et oui, messieurs, dames, on leur a offert la Moselle en bonus. La Troisième République. Et la Troisième République, elle partira dans une série de scandales, elle va nous illustrer le scandale des fiches, le scandale des médailles, comment on vend des légions d'honneur à la pelletée, elle va nous initier toutes les expéditions coloniales les plus sanglantes qui puissent être, parce que parmi les expéditions coloniales, c'est la Troisième République qui a été quand même championne toute catégorie. La Troisième République va continuer gentiment avec l'affaire Dreyfus. Ah bah oui, quand même, hein. L'antisémitisme en France était réservé à une frange de l'extrême-gauche, essentiellement. Hein, généralement, les anarchistes, qui estimaient que Rothschild égale banque, donc les juifs égale banque, donc pas de juifs. Bon, enfin, c'était les juifs de banque hein, dont ils parlaient. Pour le reste, il n'y avait pas d'antisémitisme véritablement profond et latent d'installer en France. Bon, on a réussi à bien l'installer. Bien. Puis si on continue comme ça, vous savez mon point de vue sur l'engagement de la guerre de 14-18 et le grand courage de tous nos officiers, de tous nos hommes politiques pour s'engager dans la guerre, pour savoir ne pas s'en retirer. Ensuite, le grand courage de ces hommes politiques qui ont tout fait à Versailles pour qu'on puisse recommencer 20 ans après. Et 20 ans après, quand on a recommencé, refaire la même négociation avec l'Allemagne en lui cédant un bout de terrain. Mais là, le bout de terrain, c'était plus que l'Alsace et la Moselle. Il a fallu en rajouter un petit peu jusqu'à Biarritz. Bah, c'est ça la Troisième République quand vous faites le bilan. Je ne parle pas des affaires et des scandales de l'entre-deux-guerres. On a tout ce qu'il faut. Un véritable régal, la Troisième République. Et quand vous regardez le bilan de la Troisième République, qui a quand même été 70, on va dire jusqu'à 40, 70 ans. 70 ans, ils auraient pu mieux faire que les 20 ans de Napoléon. Ben Napoléon, il avait remis la France au rang des grandes puissances. C'est ce que je vais voir avec vous maintenant. Il avait rétabli une situation économique, une situation politique, une situation sociale qui était stable. Ils sont arrangés pour tout démolir. Et quand on regarde la France en 40, ben on se dit, ah, ben c'est pas la France en 70. Hein. Alors il est évident que pour arriver à cette situation-là, ben l'histoire, elle est politique. Chaque génération écrit l'histoire et l'écrit avec une dimension politique. Si on ne fait pas attention à cette dimension politique, ben automatiquement, on se trompe et on se laisse abuser par la situation. Et là, pour Napoléon III, c'est clair que je ne suis pas un admirateur de Napoléon III excessif. Mais je dis, quand je regarde les hommes politiques qui ont gouverné la France, je veux dire de Louis XIV jusqu'à aujourd'hui, oula, il n'y en a pas un qui, en toute honnêteté, quand on fait le bilan des faits simplement, puisse dire, bien, sur une période suffisamment longue, j'ai eu le temps de pouvoir installer la paix sociale, développer l'économie, la richesse, l'hygiène, la santé, l'éducation. Excusez du peu. Aucun. Et heureusement que quelque part, en plein milieu du 19e siècle, il nous a fait faire la bascule, parce que si on avait compté sur la Troisième République, enfin, si la Deuxième République avait duré, mon Dieu, ça aurait été la catastrophe, de toute façon, elle n'était pas appelée à durer, ils étaient en train de se bouffer le nez, ça ne pouvait pas tenir. Mais si on avait eu une espèce de Troisième République renchaînée derrière la Deuxième République, sur le modèle de ce qu'on avait, de toute façon, ils ont fait ça avec les hommes politiques et le personnel politique qu'ils avaient à l'époque. Hein. Puis Coluche, on sait très bien qu'on a les meilleurs hommes politiques français du monde. Eh bien, on en arrive au problème que moi j'ai aussi bien vis-à-vis de la littérature, et ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que c'est toujours comme ça que je travaille, c'est que si je fais confiance aux auteurs contemporains pour m'expliquer ce qui s'est passé il y a deux siècles, ben, je me trompe. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon bâton de pèlerin, puis je vais regarder les textes d'il y a deux siècles. Et là, j'ai une chance de retrouver les faits, les éléments, et non pas forcément la réalité, non pas forcément la vérité, mais quelque chose qui puisse tendre vers quelque chose du moins subjectif possible. Pas forcément d'une totale objectivité, parce que, je vous l'ai dit au début, j'ai mes têtes de Turc. Je sais pourquoi je les ai. Mais par exemple, si Voltaire dit quelque chose d'intelligent, c'est pas parce que Voltaire dit que le ciel est bleu que j'irai dire « non, Voltaire a tort ». Mais là, quand on dit « Napoléon III est un crétin », Napoléon III ne savait pas écrire, Napoléon III ne savait pas gouverner la France, ça a été une époque catastrophique pour la France, on ne comprend pas ce qui s'est passé, je dis non. Non. Je dis non pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas l'époque et parce qu'on ne va pas voir les documents de l'époque. Les gens à l'époque sont très contents. Indiquez-moi un pays où les gens sont de moins en moins contents d'un gouvernement pour lequel ils votent de plus en plus. Généralement, les courbes de vote suivent les courbes de popularité. Hein. Alors, on en revient à un problème fondamental. On dit que le peuple français est un peuple cartésien. C'est un gag. C'est un gag. On est tous sauf cartésiens. Si on était véritablement cartésiens, d'abord, tiens, j'ai eu l'info récemment, j'étais sidéré, mais nous avons en France plus de rebouteux, de voyants, d'astrologues et autres diseurs de calambre d'Aisne que nous n'avons de corps médical. Toute spécialité ajoutée et confondue. Nous sommes un peuple qui croit véritablement dans les progrès de la science sans aucun problème. Si nous étions véritablement cartésiens, ben nous allons regarder ce que nous dit Descartes. Descartes nous a dit quel était le discours de la méthode. Le discours de la méthode tient en quatre points. Premier point, dubito, je doute. Ben oui, c'est la base fondamentale, je doute. Et si on me dit autant de choses négatives sur un individu, eh bien je dis non, c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas avoir quelqu'un qui reste au pouvoir pendant 20 ans, qui n'est pas un dictateur, qui n'a pas créé de stalag, de goulag, de laogai, de fait des colonies de déportation. Ah oui, ça aussi fera la Troisième République. Enfin bon. Qui ne massacre pas la population en la mettant sur un mur et en tirant dessus au canon à mitraille, comme faisait la Révolution française à Lyon, ou comme on l'a fait au Père Lachaise. Donc comment ce type-là, il a tenu s'il était aussi détestable et aussi nul que ça? Pas possible. Ben là, vous voyez, là, je doute. Premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce que je fais? Que m'indique le discours de la méthode? Je décompose tous les éléments. Vous voyez, une fois qu'on a décomposé tous les éléments, bon, on s'aperçoit que c'est assez facile à voir que... Il n'y a pas grand-chose, et puis il y a un grand cornet acoustique qui essaye de répercuter les éléments, de les enfler et d'en faire quelque chose qu'ils ne sont pas. Deuxièmement, j'analyse chacun des éléments. Troisième élément, je reconstitue l'ensemble pour voir si le raisonnement tient debout. Bah, le problème, c'est qu'avec la troisième avec Napoléon III vu par la Troisième République et véhiculé comme tel depuis, bah, ça ne tient jamais la route. Ça ne tient jamais. Alors, pour cela, plutôt que d'aller examiner des faits qui sont acquis, hein, bon, les routes, on ne peut pas les contester, les voies ferrées, on ne peut pas les contester, les ports, on ne peut pas les contester, enfin bon, il y a des tas de choses, on ne peut pas les contester. Alors, regardons ce qui est véritablement reproché à Napoléon III. Hein, les vrais griefs qu'on peut adresser à ce Second Empire lamentable. Le coup d'État. Ah, c'est pas beau ça, un coup d'État, hein? Coup d'État du 2 décembre. Eh bien, je suis au regret de le dire, mais si tous les coups d'État du monde se passaient comme c'est passé le 2 décembre, il y aurait quelques millions de personnes qui seraient encore en vie. Ne serait-ce que pour la fin de notre 20e siècle et le début de notre siècle. L'amnistie sera totale par trois vagues successives d'amnistie. Il n'y aura pas d'exécution. Il y a eu la police qui s'est livrée à une petite bavure et il y a eu quelques morts, c'est exact. Mais le gouvernement voulait qu'on ne tire pas. Donc c'est des gens qui ont désobéi aux ordres. Par conséquent, en soi, le coup d'État ne pose aucun problème. Qu'est-ce que vous voulez? Le coup d'État fait que lorsqu'on arrête des gens à Paris, vous savez ce qu'on a fait? On les a emmenés évidemment dans un camp, hein, puis on les a gardés dans ce camp-là. Non, pas du tout. Les voitures de police ont été ce qu'on appelait la campagne à Paris, hein, du côté de Saint-Germain, et puis ils ont laissé les gens dans les champs. Ils ont dit, vous descendez, puis ils sont partis. C'est ça la peine. Ils sont venus à pied à Paris. Voilà le gros des sanctions du coup d'État du 2 décembre. C'est vrai que c'est terrible comme coup d'État quand même, hein. C'est monstrueux. On ne devrait pas faire des choses comme ça. Pourquoi le coup d'État? Le coup d'État, il est simple. Le coup d'État, s'il avait véritablement été aussi sanglant, aussi monstrueux que cela, eh bien, nous n'aurions pas eu le 21 décembre 1851, donc 2 décembre, 21 décembre. C'est pas loin quand même. Hein. On n'aurait pas eu 7 439 215 voix qui ont voté les pleins pouvoirs à Napoléon III. Ah oui, il faudrait peut-être que je dise les noms. 647 737, 10 fois moins. Et il y avait une trentaine de bulletins blancs. À l'époque, on comptait les bulletins blancs dans les votes napoléoniens. Et il faut savoir que le 10 décembre 1948, il y a eu l'élection du président de la République. L'élection du président de la République avait donné Louis-Napoléon Bonaparte vainqueur avec 5 658 755 voix. 5,5 millions. Le 2 décembre 1951, les Français sont tellement mécontents du coup d'État du 2 décembre qu'ils vont voter à 7,5% pour lui. À 7,5 millions pour lui. Il a trouvé 2 millions d'électeurs supplémentaires, dis donc, entre-temps. C'est fou ce que les Français devaient être mécontents. Cavaignac avait eu 1,5 million de voix. Le Drurolin avait eu 370 000 voix. Raspail, 36 000 voix. C'était les deux voix un petit peu, on dirait, gauchisantes de l'Assemblée et qui s'étaient divisées. Un leitmotiv. Et puis Lamartine, 17 910 voix. Tout le monde estime que l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte réinstalle la paix en France. On l'a dans des courriers de Dumas père, qui reparaît dans Le Mousquetaire. On a une indication de Louis-Philippe lui-même, qui trouve que de ces élections, le fait que la France ait choisi Bonaparte est un bon choix. Alors qu'il vient d'être déposé, hein, et qu'il rêve que d'une chose, c'est de revenir. Ça magouille sec d'ailleurs pour. Et Mickiewicz, hein, le grand homme de la liberté polonaise, eh bien, il estime que Louis-Napoléon Bonaparte, c'est un excellent choix pour la France. Accessoirement pour la Pologne aussi. Ah oui, il était du côté des Carbonari en Italie. Dans les mouvements Jeune Europe, il a fait partie des mouvements Jeune Europe. Mickiewicz, il est pour le mouvement Jeune Pologne, il estime que pour une fois, on a quelqu'un qui est du côté des mouvements Jeune Nationalité Européenne qui prend le pouvoir. 48, en France, il y a la Révolution, mais dans le reste de l'Europe, il y a quelques jolis bains de sang. Hein. Bains de sang en Pologne, bains de sang dans l'Empire austro-hongrois, puis bains de sang à droite à gauche comme ça... un petit peu dans les pays germaniques. Ça se passe pas bien du tout, le mouvement Jeune Europe. Quand dans le mouvement Jeune Russie, alors là, on commence à vouloir tirer systématiquement sur tous les hommes politiques et sur les hommes, enfin, c'est les tsars, possible, à devenir un sport national en Russie. Hein, la bombe et le tir. Mais d'où ça venait, tout ça? Alors, pourquoi, par exemple, Lamartine est complètement évincé. Ben Lamartine, il s'est battu pendant 6 mois pour que l'on maintienne le bannissement sur au moins Louis-Napoléon Bonaparte, que lui ne revienne pas en France. On l'accorde pour la famille Bonaparte, mais pas pour Bonaparte. Les Français, ils n'ont pas compris. Parce que la loi de bannissement, elle était là pour dire, mais la famille Bonaparte était bannie. Et Louis-Napoléon Bonaparte, il a été élu dans 4 départements sans s'être présenté. Puisqu'à l'époque, vous pouviez être élu sans être présenté. Donc, il y avait 4 départements français qui ont choisi Louis-Napoléon Bonaparte. Donc, pour un homme qui était un grand béné dont on ne voulait pas, quand même extraordinaire, hein, il n'a même pas besoin de se présenter, il est élu. Et dans, sur plusieurs sièges à la fois. Même à la mairie de Paris, on n'a jamais réussi à faire ça. Et donc, lorsque Lamartine, qui s'oppose donc à la levée du bannissement, eh bien, le 12 juin, il commence à engager ce discours. Cette discussion va durer jusqu'au 16 juin. C'est vrai que la Seconde République n'avait que ça à faire. C'était la misère, il y avait du chômage partout, la société est en train de complètement se détendre, tout le tissu social est en train de se déliter. Et pendant 4 jours, on a parlé de savoir si il fallait quand même que Louis-Napoléon Bonaparte soit banni et n'ait pas le droit de siéger en tant que député. D'accord ? Mais ils n'ont pas eu de bol. Parce que, bon, Lamartine a perdu. Et Louis-Napoléon Bonaparte a été réélu dans 5 départements sans se présenter. Je pense qu'ils auraient recommencé le coup. Il était quasiment élu député dans tous les départements français, ou quasiment. Je crois qu'en français, on appelle ça un plébiscite. Je crois, hein. Mais je ne suis pas bien sûr. On estime à partir de ce moment-là que l'élection de Bonaparte est une réussite, Et parmi ces gens qui estiment que c'est une réussite, évidemment, il y a le vieux Béranger. Ah oh oui, bah bon, lui, vous me direz, il est bonapartiste. Alors, George Sand. Ah, George Sand, c'est quand même une égérie de gauche. Hein. N'oubliez pas, George Sand au 19e siècle, c'est une pétroleuse. Hein. Hein, pour l'époque, c'est quasiment une fémène. Hein. Et pour vous donner une idée. Hein, bah elle trouve que c'est un bon plan. Émile de Girardin, la grande girouette du journalisme. Ah, c'est une bonne idée. Et il y en a même un, dans sa retraite solitaire, qui bénéficiera de quelques aides du prince-président dans les mois qui vont venir, le vieux Chateaubriand estimera que, après tout, il pourrait peut-être réaliser la révolution que n'a pas réalisé, ce que n'a pas réalisé son oncle. Chateaubriand qui estime qu'un Bonaparte, c'est pas mal, et quand il continue dans le courrier qu'il adresse, il estime que si lui n'était pas fidèle au comte de Chambord et à l'héritier de la duchesse de Berry, eh bien, il suivrait ce Bonaparte. Chateaubriand. Ah, quand on commence à réunir un certain nombre de gens comme ça autour de soi, on se dit que, oula, on doit être vraiment un grand imbécile. Le problème, c'est que dans l'Assemblée, ça grenouille très sec. D'abord, il y a un camp, un vieux camp de Jacobins, un vieux camp de Républicains, hein, qui se baptisent eux-mêmes la montagne. Dire qu'ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Et alors, eux, c'est très simple. Il faut rétablir la guillotine et la peine de mort avec les tribunaux d'exception. Une bande d'illuminés, hein, ils sont à peu près 1000 sur toute la France. Et eux, c'est il faut rétablir la terreur blanche. Il leur manque un Robespierre, un Saint-Just, enfin, la petite équipée d'hommes éclairés, pour pouvoir réussir. Mais ils sont présents, là. Ils sont présents dans toute cette discussion où on conteste point par point la possibilité pour Napoléon III d'installer sa présidence et de prendre des décisions, ils sont là. À côté de ça, vous avez le comte de Chambord, qui est en train de réanimer tous ses partisans, puis demander quelques subsides à la reine d'Angleterre pour bien vouloir réinstaller un petit peu enfin autre chose que les Bonaparte. Quand vous demandez aux Anglais d'installer autre chose que des Bonaparte, à l'époque, ça marche très bien. Il n'y a aucun problème. Et puis, le prince de Joinville, comme le pauvre vieux, il a passé l'arme à gauche, et bien le prince de Joinville, il essaye pour les Orléans de... Mais les Orléans, ça pourrait être une solution de recours. Et donc, il organise ses troupes. Et tous ces gens-là ont des camps qui sont organisés à l'Assemblée constituante. Et systématiquement, quand le président veut faire quelque chose, il bride toutes les décisions, il bloque toutes les décisions. Ça fera 2 ans de blocage politique complet. Ce qui fait qu'à l'époque, tous les conseillers de Bonaparte lui disent mais fais donner l'armée, enfin, faut arrêter toute cette plaisanterie. Il dit non, le fruit va tomber mûr de lui-même. Bien. En 1848, un petit journal bonapartiste s'est créé, il s'appelle L'Événement. Parmi les journalistes, il y en a quelques-uns que vous connaissez, quelques-uns qu'on a déjà évoqués. Gérard de Nerval, conservateur et bonapartiste. Gautier, bonapartiste, et il le restera. Alphonse Karr, celui qui écrira Les Guêpes, un des grands humoristes qui vont traverser tout le Second Empire. Donc la dernière équipée romantique. Et ils ont évidemment un patron, un chef. Je ne sais pas si je dois vous dire son nom. Victor Hugo. Ben oui, il a le principal journal bonapartiste qui s'appelle L'Événement. Et donc, dans le premier article qu'il fait dans ce journal, hein, il dit « La France, elle a besoin d'un homme qui la sauvera. » Et de qui parle-t-il ? De Louis-Napoléon Bonaparte. Ah merde, ça casse l'image de Victor Hugo, rebelle, opposé, tout ça. Hein. Attendez, pour finir, il va faire sa fête, lui. Alors, qu'est-ce qu'il veut, Hugo ? Hugo ! Je veux l'ambassade de Londres. Bon, quelques numéros plus tard. Ah ! Je me verrai bien ministre de l'Éducation publique. Non, l'éducation publique, à l'époque, c'est l'éducation publique. On va changer juste après. Et lui, il veut être ministre de l'éducation publique. Comme dit notre ministre, il faut faire de l'éducation. De toute façon, vous voyez, c'était à la mode. Et ensuite, qu'est-ce qu'il veut ? Le Quai d'Orsay. Attendez, c'est pas fini. Juste après le coup du 2 décembre, il fera paraître un article. Alors là, il a fumé la moquette. Hein. Puis alors, le drapeau bleu, blanc, rouge, il a tout fumé les couleurs. Hein. Là, il demande dans un... Alors, je n'ai pas retrouvé l'article. Hein, parce que j'ai cherché dans mes éditions de Napoléon... Napoléon Hugo. Ok, ça marche bien. J'ai recherché les éléments. Eh bien, il a voulu écrire un article où il préfigure sa candidature à direct à la présidence. Bien. Donc l'article s'appelle, alors si je ne me trompe pas, non, c'est pas là, non, pas le gouvernement, bon, j'ai pas pris la bonne référence, ça c'est tout moi ça. Bon, je vous le retrouverai, mais dans l'événement, il annonce tout simplement qu'il faut avoir un homme sage, éclairé, expérimenté, ayant une grande culture, de nombreux contacts avec les intelligentsias étrangères, et qui puisse offrir demain à la France un avenir de bonté, de bonheur et de joie. Et chez Hugo. Et l'événement s'arrêtera là. Un humoriste à l'époque, alors on va prêter ça à Alphonse Karr, mais vous savez, c'est un peu comme qui a dit c'est Oscar Wilde, c'est pas Oscar Wilde, c'est Guitry. Ben, à l'époque, c'est un peu Alphonse Karr qui dit toutes les méchancetés. Il dit au début, il voulait être le poète des princes. Ensuite, il a été le poète du prince, de Louis-Philippe. Et il n'a pu finir que prince des poètes. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous disent les témoignages historiques ? Eh bien, on a des témoignages historiques, en effet, sur une rencontre entre Napoléon III, parce que Napoléon III, ben, il rencontre, chef du principal journal bonapartiste, il rencontrait Victor Hugo. Et Napoléon III, il a vu débarquer Victor Hugo avec une tête qui en fait à chaque fois. Donc, on sait qu'au début, il lui a proposé le cabinet de Naples, l'ambassadeur de Naples. Pas une mauvaise affectation. Ensuite, il lui a proposé l'ambassade de Madrid. Hugo s'est dit, je vais réfléchir. Oh, Londres, ça serait pas mal. Napoléon III, il exagère quand même. Bon, alors après, il ne parlait plus d'ambassade. Ah, je vais être ministre de l'éducation publique. Alors, Napoléon s'en est bien sorti parce que lui, il avait prévu un ministre de l'instruction publique. Et donc, eh ben, il ne peut pas être ministre de l'éducation publique, c'est pas possible. Et donc, quand il lui dit, bon, l'instruction publique, peut-être, mais pas tout de suite, parce que Hugo a une masse considérable d'opposants contre lui. Hein. Hugo, c'est l'homme qui s'est fait le plus d'ennemis possible pour ne rester que tout seul sur son île. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Bah, le seul partisan d'Hugo, c'est vrai que c'est Hugo, fondamentalement. Hein. Et il dit oui, mais pas tout de suite. Et l'autre dit, oh, bah, dans ce cas-là, donnez-moi le Quai d'Orsay, les affaires étrangères, direct. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait de politique, qui n'a jamais été ambassadeur, allez hop, direct. Enfin, on en a eu quand même quelques-uns de nos grands auteurs qui ont été des ambassadeurs. Aucun d'entre eux n'a eu, comme on dit, le melon pour demander directement le Quai d'Orsay. Enfin, c'est... il y va fort, Totor. Et en réalité, qu'est-ce qu'il y a ? Quel est le problème ? Le problème, bah, c'est très clair. Reprenons un petit peu ce que je dirais l'affaire Hugo. En 1819, Victor Hugo, 18 ans, juste, il a soufflé les bougies, peut créer avec ses deux frères, aînés, le conservateur littéraire. Le conservateur littéraire. Ah, il annonce quand même la couleur, hein. C'est pas un mec de gauche, hein. Ah non, hein. Ça, il n'aurait pas plu à Mélenchon. Et qu'est-ce qu'il chante? Il chante les vertus de Chateaubriand et vive le roi. Ça marche tellement bien qu'en 1822, eh bien, il est inscrit par Louis XVIII sur la liste du roi. Donc, il reçoit des tas de sous-sous du roi. Eh oui, mécénat royal, ça marche. 1825, un petit coup de lèche encore, chevalier de la Légion d'honneur. Il passe loin devant les autres, hein. Même devant des officiers de carrière, parce que quand même, la Légion d'honneur, au début, c'est quand même plus pour des militaires que pour des civils. Bah, lui, il la récupère au passage. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire de nouveau un grand coup de lèche. Bah alors, ça, c'est splendide. Et alors, à l'époque, on dit, non mais quand même, t'exagères. Bon, Nodier, c'est un réactionnaire, qu'il aille au sacre de Charles X, c'est normal. De toute façon, il est obligé d'y aller, vu ses responsabilités. Mais par contre, que Victor Hugo aille au sacre à Reims, mais la plupart des auteurs se sont excusés. Lui, il y va. Et il fait l'article. Hein. Ah, puis alors, il y avait une marque de cirage, hein, ça brillait. Et là, dans cet article, il indique que grâce à Charles X, la France va pouvoir retrouver les trois colonnes sur lesquelles elle peut briller. Le prêtre, le roi et le bourreau. Totor. C'est pas le dernier jour d'un condamné, mais je crois qu'on peut retirer le damné, hein, où on inverse le con et le damné. Oh la vache. On passe aux Orléans. Peut-être qu'il va changer, il va dire les Orléans, j'en veux pas. Ah non. Ah non, il n'est pas difficile, Victor. Ah non, 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 non. Il y va. Il y va. Il y va tellement bien, d'ailleurs, que à force de tanner Louis-Philippe, roi des Français, bon roi des Bonaires, qu'il va le faire pair de France en 1845. Et du coup, l'autre, il a une couronne qui lui pousse sous la tête, avec des petites boules dessus. Hop, je suis vicomte. Ça y est, j'ai ma Légion d'honneur, je suis vicomte. Et je suis pair de France. Alors, autant vous dire que autour de Victor Hugo, il y a un certain nombre de personnes qui trouvent que cet arrivisme frénétique leur colle des hérésipèles boutonnés. C'est pas possible. Il énerve tout le monde. D'accord? Alors, le Hugo qui gouverne, etc. Non, quand vous voyez le Hugo des caricatures, et le Hugo avec une tête en forme d'ampoule électrique, là, c'est qu'il a la grosse tête. Et que les gens de l'époque commencent à en avoir, mais alors... assez de Victor Hugo. Il a un ego, mais alors, donc tout le monde se fout de lui à cause de ça. Bien. En 48, eh bien, il n'est pas dégoûté, il va à la gamelle. Bah oui, il fait partie, le 4 juin 1848, de la Constituante. Il se trouve une petite place. Bah oui, on n'est plus père, alors il faut être député. Hein. Alors, le 17 septembre 48, hein, Louis-Napoléon est député. Alors, c'est là qu'il arrive, il est député. Alors, j'ai noté les départements. Donc, il est député de la Seine, député de la Corse, député de Lyon, député de la Charente-Inférieure et député de la Moselle, en même temps. Hein, les cinq départements l'ont voté comme représentant à l'Assemblée constituante. Donc, il est obligé, hein, c'est la mode à l'époque, d'en choisir une fois. Bon, la Troisième République maintiendra ce système-là, puis après, le général Boulanger, ils diront « Non, non, c'est des conneries, on arrête tout ça. » Bien. Et là, Victor Hugo, il se sent plus, et dans le journal L'Événement, il titre le troisième retour de l'empereur. Ça y est, j'ai retrouvé mon empereur. Donc après avoir été royaliste bourbon, royaliste orléaniste, républicain constituant, le v'là bonapartiste, à tendance impérialiste. C'est ça, Victor Hugo, hein? Donc, Napoléon fera paraître son gouvernement, les articles deviendront de plus en plus désagréables. Donc, nous avons une charge à l'Assemblée constituante de Victor Hugo, qui monte à l'assaut en disant « La Constitution a été faite par l'Assemblée constituante, nous l'avons votée, nous l'avons adoptée. Pourquoi on est encore en Assemblée constituante ? Il faut nous autodissoudre. » Réaction de l'Assemblée constituante, d'après vous ? Pas très contente. Et du coup, Napoléon III profite de l'occasion. Il va jouer sur du velours. Il va dire, ah bah oui, l'Assemblée constituante, elle a pu être Assemblée constituante. Maintenant qu'on a tout pour faire une Assemblée législative, faisons une Assemblée législative. Dans laquelle Victor Hugo sera. Ah bah. Et où est-ce qu'il siège? Bah à droite, enfin. Pour l'instant, il n'a pas bougé. Bien. Et là, il est pour une lutte, hein, pour l'opinion qui est favorable à l'idée d'un prince permanent. Mais peu à peu, dans l'événement, on s'aperçoit que il y a des articles qui ressemblent à des espèces de menaces. Si il ne fait pas ça, ça va être la catastrophe et nous, on ne peut plus le soutenir. Une espèce de chantage régulier. Très étrange. Et puis enfin, il s'attaque, alors là, erreur, il s'attaque à Rome en disant « Oui, alors voilà, il intervient à Rome, on va être du côté des catholiques les plus intégristes. » Bon, ça n'aurait pas plu à Maman Hugo, ça. Hein. Mais bon, il condamne l'expédition sur Rome. Ah oui, mais le problème, c'est que l'expédition sur Rome, elle a été votée par l'Assemblée sous l'initiative de Cavaignac, 10 jours avant que Louis-Napoléon prenne les commandes. Donc il a pris les commandes, l'expédition, elle était partie. Entre nous, il n'était pas opposé. Mais on ne peut pas lui mettre ça sur le dos. Et donc à partir de ce moment-là, eh bien, en printemps 52, on attend une nouvelle présidence, l'événement bascule, et Victor Hugo annonce sa candidature. Au printemps 52, on va changer de président ? Bon, bah, il est temps de faire le coup d'État. Et là, évidemment, Hugo s'est mis dans une telle position qu'il n'a plus qu'une seule solution. C'est partir. Voilà, toute l'importance de l'épisode Hugo. Le seul problème, c'est que là où Napoléon III n'a pas eu de chance, bah, c'est que Hugo, ça lui a redynamisé sa veine poétique. Et sa veine littéraire, à tel point que Napoléon le Petit s'en est pris pour son grade pendant 20 ans. Juste une chose. Dans les choses vues, quand Victor Hugo va revenir en France et voir la situation de la France, il va dire que tout compte fait, sous l'empereur, peut-être que les gens vivaient plus heureux. Comme quoi, peut-être qu'il n'a jamais été républicain. Mais ça, faut pas le dire. Bon, coup d'État du 2 décembre. Waouh. Vous y croyez, vous, à ce coup d'État du 2 décembre? Maintenant qu'on redonne les faits, qu'on met les choses en perspective, qu'on s'aperçoit qu'il y avait des groupes terroristes de type Carbonari qui étaient présents, il y avait même un chantage, parce que les Carbonari italiens, c'est les charbonniers, mais il y avait aussi des charbonniers en France, hein. Et donc, il y avait eu des tentatives de pression sur Louis-Napoléon Bonaparte pour lui dire « Eh oh, t'es au pouvoir maintenant, et il faut du concret. » Bien. Bon, ben, en politique intérieure, je suis désolé d'avoir dégonflé la baudruche de décembre, mais c'est une grosse baudruche. Hein. On est sûr d'une chose, par contre. La politique extérieure de Napoléon III... elle était nulle. Tout le monde est d'accord. Ben, pas moi. Je commence par faire dubito. Qu'est-ce qu'a toujours dit Louis-Napoléon Bonaparte ? L'Empire, c'est la paix. C'est quand même la première fois que je vois que l'on condamne un souverain qui désire plutôt la paix que la guerre. On a un souverain qui est pacifiste, qui préfère ne faire la guerre qu'en toute dernière extrémité, l'arrêter en cours si on peut trouver une négociation, même si la cote est mal taillée, mais une bonne négociation vaut mieux qu'une guerre qui s'enlise, qui, face au massacre qu'il constate de militaires, parce qu'il est à la tête de ses hommes, c'est vrai que c'est plus une habitude ça, quand il constate les dégâts qui sont commis, aide à la formation de la Croix-Rouge. C'est vrai que c'est forcément un type déjà en politique extérieure qui était un gros nul. Pas possible d'être aussi nul que ça. D'ailleurs, comment il commence? Avec la guerre de Crimée. Qu'est-ce qu'on fait pendant la guerre de Crimée? En réalité, ce qu'on oublie de dire, c'est que la guerre de Crimée, ça a failli être, s'il n'y avait pas eu la guerre de Crimée, la fin de l'Empire turc. Parce que l'ogre russe a des canines bien pointues, bien acérées, et ils n'ont qu'une envie, c'est de se faire la peau de l'Empire turc. Sauf que si on bouscule tout l'équilibre qui existe à l'intérieur du système de la Méditerranée orientale, ben on sait très bien ce qu'on va perdre, mais alors on ne sait pas du tout ce qu'on va gagner. Et puis il y en a qui ne sont pas du tout d'accord avec ça, c'est les Anglais. Puis les Français ne sont pas non plus trop d'accord. Parce que ceci s'accompagne, eh oui, hein, comme le disait Marx, ceux qui ne connaissent pas l'histoire sont condamnés à la revivre. Eh bien, on a un gros problème, puisque les Russes, dans leur panslavisme, sont animés aussi par une orthodoxie galopante et très, comment dire, très anisme, comme on dit aujourd'hui. Et donc, l'orthodoxie essaye de tailler des croupières aux autres chrétiens non orthodoxes dans les zones où il y a des frictions. Et il y a des chrétiens non orthodoxes dans l'Empire turc avec des chrétiens orthodoxes. D'ailleurs, on le sait, hein, ça s'appelle les Balkans. Hein, vous rajoutez un petit peu d'islam au milieu, vous touillez, et c'est une recette qui dure depuis des années. Et puis on nous resserre les plats régulièrement, il n'y a aucun problème. Puisqu'on ne comprend pas l'histoire, on va la revivre. Alors dans la guerre de Crimée, qu'est-ce que veut faire la Russie? La Russie veut descendre par les deux côtés de la mer Noire et tomber sur le dos, par le Caucase et par la plaine danubienne, de l'Empire turc, faire s'effondrer l'Empire turc et faire monopoly. Un gros morceau. Donc ça veut dire que toute la péninsule balkanique, ils vont la slaviser et la rendre orthodoxe. Tout l'embouchure du Danube, toute cette zone-là, hop, monopoly. Tout pour moi. Et là, les Français réagissent et disent « Non, non, tu fais pas ça. »« Si, si, je le fais. »« Non, tu fais pas ça. » Et donc là, la France a une idée lumineuse. On en a avec Napoléon III. On va voir les Anglais, on dit « Attendez, vous avez des intérêts communs ?» Parce qu'avec les Russes, ils se fritent régulièrement du côté de l'Afghanistan. Ah, mince alors. C'est encore la même zone, dis donc. Hein ? Et c'est ce qu'on appelle en diplomatie depuis plusieurs siècles le grand jeu. C'est-à-dire que la Russie n'a qu'une envie, c'est de pouvoir descendre vers les mers du Sud, vers les mers chaudes. Hein ? Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ils peuvent descendre que par la Perse, par l'Afghanistan, par là. Ou alors ils peuvent descendre par la Méditerranée. Bon, alors la guerre de Crimée, contrairement à ce qu'on ne sait pas, on va dire aux Anglais, écoutez, on est des alliés dans ce combat-là. On va peut-être pas laisser les Russes faire la théorie des dominos et pas savoir ce qui va sortir de la boîte à mystère, là. Les Anglais, pour des intérêts économiques et pour des intérêts géostratégiques, vont venir avec les Français. Guerre de Crimée. Et puis, comme on veut bien coincer les Russes, pour éviter d'avoir leur flotte qui nous arrive sur le dos, on va débarquer en Finlande. Et oui, dans la Baltique. Et on va coincer avec nos bateaux la flotte russe qui ne peut pas sortir. Remarquez, chaque fois que les Russes sortent leur flotte, la dernière fois qu'ils ont fait le tour du monde, ça a fait Tsushima. Hein ? On les appelait les coules tout seuls, les pauvres bateaux. Alors, bien. D'abord, on commence par gagner en Baltique. Et ensuite, c'est la guerre. Alors, attendez. On a évidemment raté la guerre de Crimée. Elle est nulle, la guerre de Crimée. Malakoff, victoire. Balaklava, les charges des Anglais, victoire. Sébastopol, victoire. Tiens, d'ailleurs, c'est quand même rare. Et alors, ils n'ont pas été débaptisés, ces boulevards-là, mais c'est quand même rare que, pour une fois, en France, on donne des noms de victoire à des boulevards. Il a fallu attendre Napoléon III pour ça, dis donc. Avant, on choisit que des défaites. Ah oui. Bien. Et pour les gares, il va bien choisir ses noms. Hein. Il n'y a pas Waterloo Station à Paris. Hein. C'est la gare d'Austerlitz. Pas par hasard. Bien. Mais alors, après une série de victoires, on prend Sébastopol. Ah, juste comme ça au passage, pour refaire un clin d'œil à 14. C'est là qu'on a le premier reportage, les premiers reportages journalistiques avec photographes. On a des photos qui sont là. Et là, pour les gens qui me disent « Ah oui, mais la guerre de 14, ils ne se doutaient pas d'une guerre de tranchées. » Alors, les crétins qui disent ça, ils vont regarder les photos de Sébastopol et de la guerre de Crimée et ils vont voir qu'on sait ce que c'est que des guerres de tranchées. Pour assiéger une ville, il faut faire des tranchées. Donc, les militaires français qui ne savaient pas qu'il fallait utiliser des mortiers sont des gens qui ont quand même à retourner à l'école. 1856, on négocie tout ça au Congrès de Paris. Au Congrès de Paris, on fait venir... Ah ben oui, le Congrès, il a lieu à Paris, puisque c'est nous qui étions à l'initiative. C'est nous qui avons remporté la victoire finale. Donc, c'est nous qui organisons. Attendez, Congrès de Paris ? Quel est le dernier grand congrès qui a eu lieu en Europe ? 1815, le Congrès de Vienne, c'était pour régler la peau de la France. L'autre, il fait une campagne militaire, il remet la France en organisateur de congrès, pas en victime de congrès. Et remet la France au premier rang des puissances qui négocient, qui discutent, qui organisent des congrès, qui organisent des traités de paix. C'est vrai que c'est un gros nul. Hein. Ah, des gros nuls comme ça, il y a beaucoup d'États qui en voudraient. Et donc d'un seul coup, eh bien, on s'aperçoit que la France est en train de revenir avec l'aide de l'Angleterre. Hein, là, on a une espèce de bipolarité qui est en train de s'installer. D'ailleurs, c'est ça qui finira par gêner un petit peu tout le monde. Un peu le gendarme du monde. Il est évident qu'en 1870, la Russie ne va pas aider la France contre la Russie. Je ne sais pas pourquoi. Une idée comme ça, je ne sais pas pourquoi. En 1858, on est en train de finir de régler toutes les histoires comme ça. Et bon, il y a des petites provinces qui ont bougé du côté de ce qu'on appelle nous aujourd'hui la Roumanie. Mais vous regardez sur une carte de l'époque, la Roumanie n'existe pas. Donc il y a des principautés. Et ces principautés sont gouvernées par ce qu'on appelle des hospodars. Alors elles ont des hospodars. Ces hospodars doivent être soit sous contrôle des Russes, soit sous contrôle des Turcs. Alors les Russes ont trouvé une technique, c'est au lieu de faire un seul hospodar, c'est de diviser la région en deux. Merde, c'est encore dans le même coin que je vous parlais tout à l'heure. Il y a la Moldavie et puis la Valachie. C'est encore dans une zone pas loin de l'Ukraine. Qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Et donc, Napoléon n'est pas idiot. On entend parler de tout ça. Morny n'est peut-être pas non plus étranger aux opérations. Et on propose aux Valaques et aux Moldaves, plutôt que de choisir deux hospodars qui vont devenir automatiquement rivaux. Forcément, il y en a un, on va lui dire, oui, mais si tu récupères l'autre, etc. Les Russes savent très bien faire ça. J'ai dit « savent », hein. C'est un présent de vérité générale, ils savaient, ils savent et ils sauront le faire, il n'y a aucun problème. Bien. S'il y a deux hospodars, c'est reparti pour un conflit. Et la Russie est prête à intervenir pour calmer le jeu. C'est l'histoire, je suis désolé. Hein. Et là, qu'est-ce que propose la France ? Elle dit « vous choisissez le même ». Comme ça, après, on fait fusion. Alors, ils en trouvent un qui va à peu près pour la Valachie et la Moldavie. Cousa, on le changera après. On en mettra un cantécumène pour changer. Mais on choisit un hospodar pour les deux régions. Et les deux régions, pof, fusion. C'est le début de la Roumanie. Et en Roumanie, allez dire du mal de Napoléon III, tiens. Eux, ils admirent Napoléon III et trouvent que c'est un très grand souverain au niveau historique. 1856. Le canton Neuchâtel, il est réclamé par les Suisses allemands et par un Suisse allemand qui est un prince qui ne veut pas que ça soit de la Suisse alémanique, mais que ça soit directement un bout d'Allemagne. La France intervient et le canton de Neuchâtel reste un canton suisse. On ne l'a même pas annexé, vous voyez, au passage. Eh oui, même les Suisses nous doivent, au travers de Napoléon III, un canton. Ça vous fait rire, mais les Suisses de Neuchâtel, ils auraient peut-être moins aimé être allemands. Hein. Bien, 1859. Ah, l'histoire du royaume d'Italie. L'Italie, Victor Emmanuel, Cavour. Alors, Victor Emmanuel, C'est quelqu'un qui s'estime très brillant. Point. Il est doté d'un cerveau annexe, qui lui est très brillant, Cavour. Mais le cerveau annexe est un caractériel. Donc on a beaucoup de mal à gérer cette espèce de tandem, Victor-Emmanuel-Cavour. Il va y arriver. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, en tant que Carbonari, il a tout lutté pour l'indépendance italienne, son frère est mort pour l'indépendance italienne, faut pas l'oublier. L'image des Bonaparte en Italie est très importante, puisque le fils, Napoléon II, était roi d'Italie, le roi de Rome. Donc il y a en quelque sorte un lourd héritage entre les Bonaparte et l'Italie. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vais vous aider contre l'Autriche. Et contre l'Autriche, qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec ses troupes. Victor Emmanuel vient avec ses troupes. Entre 60 et 80 000 hommes pour l'Italie, 300 000 pour le corps expéditionnaire français. Il y a un général en chef qui est italien, mais c'est les généraux en chef français qui mènent quand même la bataille. Ça vous donne une idée de l'indépendance italienne. C'est comme ça que ça fonctionne. Victoire de Magenta. Magenta, c'est une victoire de Napoléon III. Alors là, tous les stratèges militaires le reconnaissent, sans aucun conteste. Ils disent, il y avait un poste qui était défendu par les Autrichiens, un centre qui était très faible, et un poste qui était fortement défendu par les Autrichiens. Et les Italiens voulaient se précipiter sur l'un des postes durs pour pouvoir l'éclater. Et Napoléon, il a pensé qu'il fallait faire comme Tonton. On perce au centre, et puis une grande claque à droite ou une grande claque à gauche, et ça suffit. Magenta. Et il a surpris les Autrichiens. C'est-à-dire que les Autrichiens sont quand même pas malins, parce que les Bonaparte, ça fait longtemps qu'on leur fait le coup. À chaque fois, on perce au centre, on leur met une claque à droite ou une claque à gauche. Ça dépend du côté où sont les Russes ou les Prussiens. Après, c'est de savoir si on a les moyens ou si on est gourmand. Bien. Et ensuite, la bataille de Solferino. La bataille de Solferino est un tel carnage que c'est Louis-Napoléon Bonaparte qui arrête la bataille. Je dis bien qui arrête la bataille. Et qui envoie immédiatement en pourparlers des négociateurs pour dire « Bon, vous avez perdu, on arrête là le carnage ?» Vous en connaissez-vous beaucoup, des hommes politiques comme ça? Des chefs d'État comme ça? Des chefs militaires de cet acabit-là? Et c'est ce soir-là qu'en compagnie, notamment d'Henri Dunant et de quelques autres, il dira qu'il faut absolument continuer l'œuvre des Invalides et l'œuvre faite aux armées et d'éviter que les batailles soient des carnages. C'est vrai que c'est un mauvais souverain, ça. Et puis c'est nul comme politique. Alors le seul truc, c'est que Victor Emmanuel et Cavour se retrouvent les dindons de la farce, parce qu'ils ne sont pas aux négociations. On a oublié de les inviter. Napoléon, il a dit « j'arrête la bataille », donc il y a été directement. Il n'a même pas demandé aux Italiens si on arrêtait la bataille ou pas. Et il a été négocié directement avec les Autrichiens. Et le lendemain, il revient et dit « voilà, j'ai la négociation ». Alors, vous gagnez tout ce que vous... Sauf la Vénétie. La Vénétie, on la laisse, mais par contre, tout le reste de l'Italie, vous récupérez. Vous me croirez pas, mais les Italiens, ils nous ont fait la gueule ce jour-là. On leur donne tout jusqu'aux États pontificaux, tout le nord de la botte, sauf la Vénétie. Ils n'étaient pas contents. On va recommencer avec les Autrichiens, et après Sadova, qu'est-ce qui va se passer? Sadova, les Italiens, ils vont déclarer la guerre à l'Autriche, puisque la Prusse y va. Et donc, ils vont perdre sur terre, et ils vont perdre sur mer. En 14, ils feront mieux, ils perdront que sur terre. Et aux négociations, qu'est-ce qu'on demande aux Autrichiens? Vous cédez la Vénétie aux Italiens. Les Autrichiens disent, attendez, on les a battus sur terre et sur mer, et il faudrait leur refiler la Vénétie? Non, on ne leur donnera pas la Vénétie. D'abord, la Vénétie, on la donne à la France. Et donc, ils vont donner la Vénétie à la France pour qu'on la donne à l'Italie. Vous me croirez pas, les Italiens, ils ont fait la gueule ce jour-là. C'est quand même dingue, ça. Et c'est pareil, en 1870, les Italiens, ils vont pas venir nous aider. Sauf qui est passé par ici et qui est monté jusqu'à Dijon, avec ses deux régiments de volontaires italiens. Garibaldi. Eh oui, Garibaldi qui est venu avec deux régiments, 2000 volontaires italiens qui sont venus se battre pour la France et ils étaient là au nord de Dijon, dans les combats du nord de Dijon. Il y avait une dalle, mais on l'a retirée. Hein. Faut laisser passer le tramway. Hein. Il y avait une dalle qui commémorait le souvenir. Elle a disparu. Bien. Je dirais rien. Mais par contre, l'Italie, elle a une dette. Parce qu'ils ont récupéré l'Italie du Sud, l'Italie du Nord. Bon, les États pontificaux, ils ne les ont pas pour l'instant, mais ne vous inquiétez pas, ils ne vont pas tarder à les avoir. Mais par contre, ils avaient promis à la France que si vous nous aidez, nous, on fait un effort. Vous avez le droit de demander aux Savoyards et aux Niçois, s'ils veulent, devenir français. La Savoie va voter de façon écrasante. Je crois qu'il y a 600 voix contre. Pour toute la Savoie. Et pour le comté de Nice, je crois qu'il y a 200 voix contre qui sont presque toutes concentrées dans un quartier de Nice où il y avait beaucoup d'Italiens. Et au passage, comme il y a l'enclave de Monaco au milieu, ils disent « Bon, Monaco, c'est un petit peu trop gros, donc on va lui piquer Menton et Roquebrune. » Parce que c'était dans le domaine des Grimaldi. Voilà. Et bien, c'est la dernière fois qu'on a agrandi le territoire français pour ce qui concerne notre histoire de France. Eh oui. Parce que depuis, excepté, il y a quelques kilomètres carrés qu'on ne sait pas encore très bien s'ils sont à la Belgique ou à nous, au Luxembourg, à nous, puis surtout à l'Allemagne. On a encore des bouts de frontières. Je vous jure, hein, c'est authentique. On a des bouts de frontières, on ne sait pas si la frontière, elle est. Il y a une zone grise, on ne sait pas si la frontière, elle est plus au nord ou plus au sud avec l'Allemagne. On n'a pas encore fini de définir nos frontières. On a fait l'Europe, on n'a toujours pas fini de définir nos frontières. Fantastique. Bien. Bon. Alors, venons-en maintenant à l'affaire un petit peu plus difficile, l'Allemagne. Ah, l'Allemagne. À partir de 1866, Bismarck est en train de réaliser son grand projet, le projet de sa vie. Ah, une seule Allemagne. Ein Reich. Reich ein. Et il va tout faire pour y arriver. Alors, il a une idée fantastique. On est en 66, il va venir avoir à Biarritz, alors qu'il prend les eaux. Napoléon III est très fatigué, hein. On a vu par la conférence que la fin de l'époque Napoléon III, il y a des moments où il est tellement bourré d'opium, hein, où il est tellement torturé par la douleur que de toute façon on peut lui dire à peu près tout et n'importe quoi, il dit oui, mais il n'est plus là. C'est d'ailleurs pour ça qu'il change son régime, parce qu'il sait qu'il va passer la main à son fils, il n'a pas l'intention de rester sur le trône. Dès que son fils peut monter sur le trône, il monte sur le trône. Et vous savez ce que vient proposer M. Bismarck à Napoléon III? Il vient lui faire une petite négo. Elle dit, ben voilà, moi je vais occuper le Schleswig-Holstein. Je vais piquer le bout au Danemark. Le Danemark, c'est tout petit, il y a une petite armée. Je vais leur claquer le beignet, ils ne vont rien dire. Si l'Autriche bouge, tu ne bouges pas. En échange, tu as le droit de récupérer le Luxembourg, la Belgique française et la partie du Rhin que depuis Louis XIV vous essayez de récupérer. La belle frontière naturelle du Rhin, la Rhénanie, le Luxembourg et la Belgique wallonne. Rappelez-vous que la Belgique, c'est quand même un coup foireux que nous ont fait les Anglais. C'est d'avoir une espèce de frontière avec une terre de débarquement pour leurs troupes pour pouvoir nous tomber dessus au cas où on bouge. C'est ça la seule utilité de la Belgique. Hein. Vous êtes à la place de Napoléon III, vous dites, ah ben chic, je peux encore agrandir la France. Eh ben non, il ne va pas le faire. Heureusement, parce que sinon Juncker n'aurait pas pu nous montrer toute la grandeur des hommes qui gèrent l'Europe. Eh bien oui, mais Bismarck, c'est vrai que pendant la guerre de 70, il ne va pas être avec nous. Ah ben oui, d'ailleurs, il est même en face de nous. Et comme à Sadova, il a battu les Autrichiens et qu'on n'a pas aidé les Autrichiens, ben les Autrichiens, ah ben ils ne sont pas avec nous. Puis les Anglais, ben ils ne sont pas non plus avec nous. Mais les Anglais, ce n'est pas la première fois qu'ils nous ont abandonnés. Hein, parce que c'est l'expédition du Mexique. Expédition du Mexique. Pas la France, hein. C'est la France, plus l'Espagne, plus l'Angleterre, plus l'accord du Danemark et du Portugal. Bon, le Danemark, comme on avait protégé Schleswig-Holstein, le Danemark, il trouvait que la France était très bien quand même. J'aime beaucoup Napoléon III. Hein, tu vois. Mais les Anglais ont oublié d'envoyer leurs troupes. Alors, c'est bête, hein. Puis les Espagnols en ont envoyé, et ils les ont débarqués, puis quand on a vu que les Français ils étaient déjà partis à l'intérieur des terres, ben, ils sont partis. Je le dis comme ça, mais c'est l'histoire, hein, c'est simplement les faits. Bien. Mais dites donc, pourquoi on est allé au Mexique? Pourquoi on est allé au Mexique d'abord, hein? Ça, alors là, tout le monde est d'accord. Mais quelle imbécilité! Mais fallait-il qu'il soit bête, celui-là? Ouais. Croyez qu'il était si bête que ça? Vu tout ce qu'on vient de voir, honnêtement, quand même pas un abruti de première catégorie, qu'est-ce qu'il va aller faire au Mexique? Vous vous rappelez, je vous ai parlé de l'idée de percer le canal de Panama. Le canal de Suez est en percement. Enfin, je vous parle par rapport à l'époque, hein. Le canal de Suez est en percement, en 69, il sera inauguré. Et il sera fonctionnel. Mais si vous voulez vraiment avoir la ceinture complète, il faut avoir Panama. Et au niveau des jeux diplomatiques, qui est-ce qui peut s'opposer à ça? La doctrine Monroe. Pas du tout l'Angleterre. La doctrine Monroe. Le président des États-Unis qui a décrété que tout ce qui est au nord, au sud de nous, là, notre ventre mou, c'est Mare Nostrum. Donc personne n'a le droit d'intervenir dans ce domaine sans notre accord. La doctrine Monroe, c'est ce qui gère l'Amérique pour sa politique Caraïbes-Amérique centrale depuis 150 ans. Ben, elle était déjà présente à l'époque. Et Napoléon III, il avait bien vu un truc. Hein. Les nordistes, ils n'aimaient pas ça. Ah, il a soutenu les sudistes, mais il n'a pas envoyé de corps expéditionnaire. Dommage, il aurait fait comme Louis XVI. On aurait peut-être eu une Amérique divisée en deux, sudistes et nordistes. C'était pas loin. Hein. Parce que nous, on l'appelle la guerre de sécession, mais c'est pas par accident qu'on l'appelle la guerre de sécession. Parce que nous, ce qui nous intéressait en France, c'était la Civil War, la guerre civile. Pas du tout, nous, c'était la sécession. C'est que le nord et le sud fassent une jolie frontière. Ah ben, on avait des antécédents à régler, hein. Non, l'antécédent, il était tout simple, c'est que nos gentils amis américains, le Texas, ils l'ont piqué au Mexique. Bon, d'accord, Alamo est un très beau film, mais enfin, c'est une guerre d'occupation, hein. Ni plus ni moins. Puis un petit peu plus tard, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Californie. Ben oui, ça a été récupéré. En l'espace de 20 ans, nos gentils amis démocrates américains ont envahi un tiers du Mexique. Et ils ont encore un petit coup d'appétit, là. Ils ont encore une petite faim. Encore une petite faim, il y a un bout de... petit bout, là, qui leur plaît bien. Puis ils peuvent descendre un tout petit peu, les montagnes Rocheuses, descendre encore un petit peu vers le sud. Peut-être pas jusqu'à Acapulco, mais descendre un peu vers le sud aussi, hein. C'est dingue cette tendance qu'on a à aimer les mers chaudes. Et donc, il y a un gouvernement qui gère, qui est très bien. Et donc, on a animé un individu qui s'appelle Juarez, qui est intégralement subventionné par, alors pas par la CIA, elle n'existe pas à l'époque, mais par le gouvernement américain. Et le problème, c'est que dans ces zones-là, qui sont des zones fortement chrétiennes, qu'est-ce qu'on installe? Des pasteurs protestants. Baptiste et compagnie. Alors, c'est là que ça me permet de revenir sur un point qu'on a peu vu. Louis-Napoléon Bonaparte n'est pas pour une religion ou pour une autre. Il est pour la liberté des cultes. D'ailleurs, il n'y a aucun problème sur la liberté des cultes en France à l'époque. Pourquoi? Ben regardez, par exemple, lorsqu'il est prince président, un de ses tout premiers voyages, c'est de passer à Amboise et de libérer Abdelkader et ses hommes. Enfin, ceux qui avaient survécu à leur séjour en France. Vous avez encore, sur la terrasse d'Amboise, la tombe d'un certain nombre de compagnons d'Abdelkader. Et il lui donne une somme, et Abdelkader va, où est-ce qu'il va s'installer? Ben, il va prendre sa retraite à Damas. Lorsque les Druzes vont massacrer des Maronites au Liban, 8 à 10 000 Maronites, eh bien la France interviendra avec un corps expéditionnaire au Liban. Et qui sur place accueillera la France? Abdelkader, avec les autorités religieuses, qui disent il faut établir la paix, il faut pas faire de conflit, etc. Bon, comme on gêne un peu les Anglais parce que c'est dans leur zone, bon, on repartira. Hein. Mais le Liban, c'est un coin qui nous est sympathique depuis les croisades et on a remis une petite couche à l'époque de Napoléon III. Bien. Évidemment, aucun problème avec les Juifs non plus. Hein, le concordat de Napoléon Ier est reconduit sans aucun problème. Par contre, il n'y aura pas, comme on le fera un peu plus tard en Algérie, de décret Crémieux qui installe qu'il y a des citoyens français, il y a des citoyens français juifs, et puis il y a les Arabes, qui eux n'ont aucun droit. L'objectif dans ces cas-là de Napoléon, c'est de permettre à tout le monde de pouvoir vivre en harmonie d'abord dans sa colonie, et ensuite au sein de l'Empire français. C'est ça, sa volonté, son objectif. C'est comme ça qu'il tient à ce que les choses soient faites. Alors attention, je ne dis pas que tout est merveilleux, tout est beau, le plus beau dans le meilleur des mondes possible, mais non. Et donc, vous vous souvenez que lorsqu'il était en camp à Ham, dans la prison à Ham, eh bien il a reçu des ambassadeurs du Nicaragua, avec lequel il a signé l'idée de signer le canal de Panama, qui ne devait pas passer par Panama, mais par le Nicaragua et par le grand lac central du Nicaragua. Là, les Américains, ils ne nous aiment pas du tout. Et je peux vous dire que ça leur a coûté cher, l'opération du Mexique. Bien plus cher que nous. Mais c'était tout simplement pour empêcher d'un seul coup les Américains de se mettre à devenir une espèce de superpuissance envahissante. Et là, les Anglais avaient intérêt à intervenir parce qu'ils se sont dit, les Américains, si on les bloque un peu au sud, ils pourraient être tentés d'aller au nord. El Calanda était une colonie britannique à l'époque, hein. Pas indépendante du tout. Les Anglais n'avaient pas envie d'emmener des troupes là-bas. Hein, ils avaient vu aussi la Civil War, ce qu'elle contenait comme atrocité. Ah ben tiens, là aussi on a fait des reportages photographiques, là aussi il y avait des tranchées, là aussi il y avait des mortiers, et là on a commencé à utiliser un truc qui s'appelait la Gatling Gun. Quand on traduit en français, ça fait mitrailleuse. Oh merde, faut pas le dire ça, c'est vrai. Hein, c'est pas bien. Eh oui, l'histoire à l'époque de Napoléon III, elle installe l'histoire du XXe siècle. Hein, on parlait de la colonisation. Ben, la colonisation, évidemment, c'est l'Algérie. Ah, tiens, juste par curiosité, le prince impérial dont je parlais tout à l'heure avait un titre. Il était le roi d'Alger. Le duc de Reichstadt était le roi de Rome. Le prince impérial Napoléon IV était le roi d'Alger. Bien, donc il faut s'attacher les populations par aussi hein, une chose qu'il demande. Et c'est valable en Algérie, c'est valable à Dakar, puisqu'il y a la colonie de Dakar qui s'installe, et un petit peu partout d'ailleurs, hein, puisqu'on aura évidemment la formation de l'Indochine étape par étape. Il faut que les emplois civils et les emplois militaires soient ouverts aux gens des colonies, dans le cadre des colonies. C'est pas le roi des Belges, hein, qui fait suer le burnou aux colons, tout ce qu'il peut. Bien, donc évidemment, il y aura l'expédition de 1860 au Liban, il y aura l'expédition au Cambodge en 1863, ensuite il y aura l'expédition de Cochinchine. En Cochinchine, on fait face aux Chinois, c'est la défaite de Palikao, on a 800 bonhommes, il y a 40 000 Chinois. On devait avoir des très mauvais militaires à l'époque. Les 800 soldats qu'on avait à Palikao, c'est les 800 qui reviennent des 55 jours de Pékin. Hein, parce que le gros des bataillons a été fourni par les Français pour venir aider les Anglais ce coup-là, avec quelques Américains. Bon, c'est vrai, le film est américain, mais bon, ça, c'est autre chose. Donc, le Texas avalé, la Californie avalée, il fallait sauver le Mexique. Y installer un roi très chrétien. Et ça tombait bien, on a choisi Maximilien. Mais vous savez pourquoi on a choisi Maximilien ? Parce que Maximilien et François-Joseph ne peuvent pas se sentir. Mais alors, c'est une horreur. Hein. C'est, on dirait presque qu'ils ne sont pas frères. À tel point, ils se détestent. Et donc, François-Joseph va être d'accord pour que son frère aille faire l'empereur du Mexique là-bas, à une condition. Il y a un papier à signer avant qu'il parte. C'est, à partir du moment où il est empereur du Mexique, il n'a plus le droit à la couronne d'Autriche. Il signe une renonciation. Ça n'aidera pas pour la succession d'Autriche, surtout avec la mort de toute la famille qui va y passer progressivement. Bien, le Mexique, puisque c'est une campagne si lamentable que cela. Vous savez pendant combien de temps on a envoyé un corps expéditionnaire? Parce que la campagne du Mexique, tout le monde sait qu'elle a été rapide. Non, 6 ans. Il était prévu de les envoyer pour 6 ans, ils sont restés un peu plus de 4 ans. Oui, c'est ce qu'on oublie de dire. C'est qu'une fois qu'on a installé sur place, Puebla, Bazaine nous fait un coup fabuleux. Il a 450 bonhommes qui sont sur un éperon rocheux, et en face, il a 6000 hommes, tout équipés, avec des vrais généraux mexicains, les moustaches et tout, impeccable. Et le soir, les généraux mexicains, vous savez où ils vont? Au bordel. Les filles, la tequila. Et demain, on va se faire 450 Français. Donc Bazaine se déguise avec une partie de son état-major en généraux mexicains. Il débarque dans le camp. Il défend toutes les défenses. Et il donne des ordres contraires. C'est-à-dire qu'il faut surveiller tel endroit parce qu'il va y avoir une attaque. Ils ont eu des informations, il va y avoir une attaque. Et il fait rentrer les 450 Français dans le camp. 12 000 prisonniers. Mais on réveillait les tentes au fur et à mesure, les unes à la suite des autres. C'est vrai qu'avec des hommes comme ça, il n'était pas aidé, Napoléon III. Hein. Et le lendemain, Puebla, imprenable. Bon, il y avait les murs, et puis dans les murs, il y avait le pénitencier. Donc il a attaqué le pénitencier, il a libéré tous les gens qui étaient à l'intérieur du pénitencier, qui étaient évidemment opposés, donc qui étaient forcément de nos amis, et il a fini de les équiper. Et le pénitencier, les portes du pénitencier donnaient dans la ville de Puebla. Quelque part sur le plan, devait y avoir une erreur. Et donc après, qu'est-ce qu'on a fait? On a systématiquement poursuivi toutes les troupes de Juarez. Juarez, d'ailleurs, il était à la limite de la frontière américaine. Il n'était pas basculé de l'autre côté. Un peu comme Voltaire, tiens. Permets de faire le clin d'œil à Voltaire aussi, au passage. Voilà. Bon, le financement. La France assurait le financement. Et Maximilien avait le droit à lever un emprunt en France pour aider le gouvernement. Au bout de 4 ans, ce qui se passe, c'est Yassa Dova qui se précise, hein, qui s'annonce. Et donc, Napoléon III rappelle Bazaine et ses troupes. Voilà, et à partir de ce moment-là, c'est la fin de la campagne du Mexique. Mais la fin de la campagne du Mexique, d'abord, c'est une campagne militaire qui est gagnée. Ah oui, je sais, Cameron. Bon, il y a 220 légionnaires, on leur a dit, vous décrochez, ils sont restés. Ça fait une belle page d'histoire de France. À la con, mais ça fait une belle page d'histoire de France. On en a eu des séries comme ça. Hein, mais on avait dit aux légionnaires, décrochez. On n'a jamais dû perdre à Cameron, puisqu'il devait tomber, il n'y avait pas de soldats. Bien. Tabouva? Honnêtement. La colonisation, il n'est pas si nul que ça. La campagne du Mexique, c'est un ratage, mais c'est un ratage qui était incontrôlable à la base. Et puis surtout, y en a certains qui n'ont pas été. Il faudrait demander aux Anglais et aux Espagnols, mais pourquoi vous n'êtes pas intervenus? Bien. Ensuite, si on regarde toute la politique extérieure, c'est vrai que on a dit qu'involontairement, il avait réalisé le pari de son oncle, c'est-à-dire qu'il a réussi à faire l'unité italienne, parce que l'unité italienne se fera. En 70, les États pontificaux vont disparaître de la carte. Ensuite, si on regarde bien l'unité de l'Allemagne, elle va se faire sur le dos de la France. Mais le Reich, il sera signé dans la Galerie des Glaces à Versailles. Et c'est là que sera couronné le Kaiser. Il est couronné en France, à Versailles. Quand on regarde, la campagne du Mexique, c'est un peu malheureux, mais c'est un blocage de cette espèce d'expansion américaine qui est en train de se passer, où les Américains, ils continuaient tranquillement, ils occupaient toute l'Amérique centrale, hein, et sans aucun complexe. Et aujourd'hui encore, vous voyez bien que de temps en temps, ils ont quand même une politique très interventionniste dans l'arc Caraïbe et sur l'Amérique centrale. Ils ont même descendu un peu plus sur l'Amérique du Sud, d'ailleurs, à une époque, hein, un peu moins maintenant. Mais on voit bien que la politique, à cette époque-là, est-ce qu'il était si mauvais juge? Il s'est entendu avec les Russes et il a préparé une alliance franco-russe qui va nous aider quand même en 14-18. Il a rétabli les liens avec l'Angleterre, qui était quand même notre vieil ennemi depuis plusieurs siècles. Il a permis la création de la Roumanie, et il était pour l'établissement d'un ensemble européen. certains stratèges et certains hommes politiques considèrent que c'est peut-être l'un des plus grands hommes politiques du XIXe siècle et un des plus voyants, un des plus avant-gardistes, car il arrivait à plus ou moins entreapercevoir ce qui allait se passer. Alors évidemment, comme je l'ai dit à la première conférence, tout n'est pas fait uniquement par Napoléon III. Mais de temps en temps, un gouvernant, quand quelqu'un est un bon gouvernant, c'est qu'il sait s'entourer des bons hommes, des bonnes équipes, des gens qui savent faire. Ça, parfois, c'est la marque d'un très grand souverain. Militairement, il n'était pas si mauvais que ça. Diplomatiquement, il n'était pas si mauvais que ça. Politiquement, il s'est pas trop mal débrouillé quand même. Est-ce qu'il méritait toute cette avanie? Est-ce qu'il méritait qu'on puisse systématiquement avoir tous ces lieux communs, qu'on fasse courir sur lui, à tel point qu'on ne connaît quasiment pas véritablement sa vie, si ce n'est du légendaire, qu'on est capable d'inventer, comme la dictée de Mérimée, ou ignorer complètement son fils, le prince impérial? Était-ce mérité? Alors évidemment, Hugo est un peu responsable. Mais je vais vous dire honnêtement, Hugo, c'est une goutte d'eau dans la mer par rapport à ce qu'ont pu raconter les autres. Notamment, par exemple, le précepteur du prince impérial, le précepteur adjoint, Ernest Lavisse. Hein? L'histoire, c'est l'histoire des historiens. Si vous n'allez pas à la source, vous subissez l'histoire que les historiens veulent vous raconter. Bonne soirée. Donc la prochaine fois, il ne nous reste que les femmes, hein? Donc il va falloir parler de choses plus croustillantes.
Je fais juste un petit rappel. Madame Roux nous a fait, il y a quelques années, un cycle sur l'aspect propagandiste de l'enseignement de l'histoire, qui était très bien, et elle a fait une séance complète sur le petit Lavisse. Donc on a ça dans nos archives, si ça vous intéresse, c'est intéressant. Hein. Si vous n'étiez pas là, donc sachez qu'on a ça... Ça doit bien faire déjà 4 ou 5 ans. Les années passent et on ne les va pas passer. Voilà. Puisque malheureusement, l'enseignement de l'histoire, c'est de la propagande. C'est comme ça.
Il faut que les gens comprennent.
Je te note le nom de... Ah oui.